Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. Les unes des journaux récentes ou passées regorgent ces chroniques inquiétantes de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine, jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble ces histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Je vous invite également à découvrir mon dernier livre paru aux éditions City, « La malédiction égyptienne ». Les grandes agglomérations concentrent la majeure partie des crimes et délits, c'est vrai. Cela n'empêche pas les petits villages, les bourgs les plus tranquilles et les communes rurales d'apparaître parfois dans la rubrique des faits divers des journaux. C'est justement de l'un de ces petits villages dont je vais vous parler aujourd'hui. Un petit village qui a une signification toute particulière pour moi, puisque c'est celui où j'ai passé toute ma jeunesse. Il s'y déroula, au début du printemps 1938, un drame digne de figurer dans un roman noir. À cette époque, ce petit village est plus un hameau qu'une véritable agglomération. Une cinquantaine de familles vivent au pied d'une colline verdoyante, dans un paysage bucolique. Le climat y est doux, agréable. Dans les collines, on trouve encore de nombreuses sources d'eau claire et le gibier abondant fait la joie des chasseurs. Les villageois sont de braves agriculteurs qui cultivent tranquillement leurs terres et ne doivent rien à personne. Ils s'entraident parfois pour les travaux des champs, se retrouvent sur la place du village lors des fêtes votives. Le dimanche, ils vont à la chasse ou aux champignons selon la saison, et bien sûr ils boivent l'apéritif ensemble à l'auberge du village tous les dimanches. C'est dans ce contexte qu'Antoine Carédo, un bûcheron piémontais qui a fui la misère de son pays, arrive quelques années plus tôt. Il est veuf et a trois enfants, deux garçons, Gavino et Sauveur, ainsi qu'une fille prénommée Aurélie. Antoine est un travailleur acharné, dur à la tâche, courageux et d'une honnêteté scrupuleuse. Il est très vite intégré aux familles du village et, quelques années plus tard, c'est un villageois comme les autres. Les enfants sont également parfaitement intégrés. Gavino, l'aîné, trouve une fiancée et se marie. Sauveur, plus jeune, court les collines avec les autres garnements du village et Aurélie. Eh bien Aurélie, qui devient très vite une magnifique jeune femme, profite de la vie. Elle a 23 ans, elle attire les regards et ne tarde pas à se trouver un amoureux, Louis Moignet. Et c'est à partir de là que le drame va se nouer. Antoine, le père, est un chef de famille à l'ancienne. Autoritaire, il entend être obéi au doigt et à l'œil. Il n'hésite pas à lever ses grosses mains calleuses sur ses enfants. Si les villageois parlent l'homme de nombreuses qualités, il n'ignore pas non plus ses défauts. Il est violent, acariâtre, mauvais camarade. On prétend même que son épouse serait morte, là-bas dans le Piémont, de cette brutalité dont il fait preuve sans la moindre retenue. La liaison d'Aurélie et du jeune Moignet va le faire basculer dans une fureur incompréhensible. Pourtant, le garçon est tout à fait honorable. Bel homme, pas trop bête, travailleur, et surtout amoureux de la jeune femme. Antoine reste intraitable, à tel point que personne ne comprend son acharnement. « Je ne veux plus que tu vois ce garçon » hurle-t-il. Aurélie ne l'a jamais vu dans un tel état de rage. Elle essaie de temporiser, d'adoucir la colère de son père. Rien n'y fait. Mais aller interdire à une jeune fille amoureuse de rejoindre l'homme qu'elle aime, c'est peine perdue. Et donc Aurélie et Louis continuent à se voir le plus souvent possible. Évidemment, dans un petit village, tout se sait rapidement et Antoine est au courant de la désobéissance de sa fille. Les disputes s'enchaînent quotidiennement et deviennent de plus en plus violentes. Mais qu'est-ce que ce bûcheron entêté reproche au jeune Moignet? Il y a un mystère là-dessous. Aurélie continue à opposer des arguments rationnels à son père. « Mais papa, nous nous aimons, nous nous sommes promis l'un à l'autre, nous voulons nous marier, que te faut-il de plus ?» « Jamais !» hurle invariablement Antoine, tu m'entends ?« Jamais tu n'épouseras ce garçon !» Il ponctue ses cris de violents coups de poing sur la table qui font trembler la vaisselle qui s'y trouve encore. Aurélie est désespérée. Elle envisage toutes les solutions. Peut-être devrait-elle s'enfuir avec Louis, quitter le village, partir le plus loin possible de ce père acariâtre et dominateur. Elle a un mauvais pressentiment. Bien sûr, une telle décision est difficile à prendre, d'autant plus que Louis hésite. Il aide ses parents à la ferme. Lui n'avait pas envisagé les choses de cette manière. Il avait pensé demander la main d'Aurélie à son père, comme cela se fait, puis il aurait vécu avec sa femme dans la demeure familiale. Ils auraient fait quelques enfants, et lorsque ses parents seraient partis, eh bien, il serait devenu le maître des lieux, et il aurait repris l'exploitation agricole. Voilà certainement comment Louis Moynier envisageait leur avenir commun dans son village. Mais c'était sans compter sur l'étrange acharnement du bûcheron à empêcher les deux enfants d'être réunis. Quelques mois s'écoulent encore dans cette ambiance totalement délétère. Et puis un soir, au cours d'une dispute encore plus violente que les autres, Aurélie lance à son père : « Maintenant, nous sommes obligés de nous marier. Je suis enceinte. » Antoine accuse le coup. La chose est impossible à accepter pour lui. Il y a la désobéissance, et puis aussi le déshonneur, et les qu'en dira-t-on, les regards en biais. Son honneur est perdu. Alors, une fois de plus, il crie, il hurle, il invective. « Non, non, tu n'épouseras jamais ce garçon !» Voilà ses dernières paroles avant de refermer la porte à clé et de monter se coucher. Il ne dormira pas de la nuit, ressassant cet affront. Il ne dormira plus d'ailleurs à compter de ce jour. Il est rongé par un acide intérieur le plus puissant de tous. Un mélange de haine, de jalousie et de désespoir. Que faire, sinon l'irréparable? Quelques jours après l'aveu d'Aurélie, Antoine est assis dans son fauteuil près de la cheminée. Son fusil est posé en travers de ses genoux. L'arme est chargée de chevrotines. Une fois de plus, Aurélie rentre tard, et une fois de plus, elle a les yeux brillants et les cheveux ébouriffés. Lorsqu'elle pousse la porte, elle n'a pas besoin de voir le double canon de l'arme pointé vers elle pour comprendre. Son funeste destin est inscrit dans les yeux de son père. Elle n'a qu'une issue, la fuite. Alors elle se lance dans une course effrénée pour sa survie. Elle quitte la ferme, court vers le village tout proche, pleure, hurle, appelle au secours. Elle entend derrière elle les pas précipités de son père qui l'a prise en chasse comme un vulgaire lièvre. Des hommes tentent de s'interposer, mais ils se retrouvent face à la gueule noire du fusil de chasse. Ils ne peuvent rien faire. Ces interventions ont tout de même ralenti Antoine et ont permis à Aurélie de prendre de l'avance. Mais peut-on courir plus vite qu'une décharge chevrotine? Certainement pas. Le forcené et Paul prend son temps pour ajuster le dos d'Aurélie et presse la détente. La campagne résonne soudain de la détonation de la cartouche et l'air prend une odeur âcre de poudre brûlée. Là-bas, Aurélie s'effondre, tout près de la maison de son amant, le dos et la nuque déchiquetés par la décharge mortelle. Encore quelques mètres et elle aurait été en sécurité. Elle ne meurt pourtant pas sur le coup. On la transporte d'urgence à l'hôpital d'Avignon, encore consciente, mais comprenant que la vie se retire de son corps. Pendant ce temps, Antoine a enfin réalisé la portée de son geste. Au mieux, il finira sa vie en prison. Au pire, on lui coupera la tête. Alors, il court se réfugier dans la maison où, quelques minutes plus tôt, il attendait sa fille avec l'intention de la battre froidement. À présent, c'est lui le gibier. Les gendarmes ont été prévenus et déjà, ils encerclent la ferme du bûcheron. La nuit est tombée et la bâtisse est plongée dans une obscurité pesante, mis à part la lueur tremblotante d'une bougie qui brille au premier étage. C'est là qu'Antoine s'est retranché. Pas question de donner l'assaut à cette heure. Aussi, les militaires tentent de parlementer avec lui. C'est peine perdue. Le premier qui s'approchera sera abattu. Alors le siège s'organise en attendant le petit matin. Connaissant l'individu, tous s'attendent, d'un moment à l'autre, à entendre une détonation provenant de l'étage qui signifierait qu'Antoine a fait faire l'économie d'une exécution à l'État français. Soudain, un des officiers a une idée. Il connaît le jeune sauveur Carédo. Il sait que c'est un jeune homme plein de bon sens, débrouillard, et qui a la langue bien pendue. Son père ne lui tirera pas dessus, enfin, il l'espère tout au moins. Il pourrait être un négociateur providentiel. cet ambassadeur improvisé supplie son père de se rendre, mais sans le moindre résultat. « Laissez-moi jusqu'au matin, alors je me rendrai, » lance Antoine, abrité derrière la fenêtre dont il a entrebâillé les volets. « C'est d'accord. On lui laisse un répit de quelques heures. De toute manière, le soleil ne va pas tarder à se lever. »« Est-ce qu'Aurélie est morte ?» demande le forcené au moment où Sauveur s'éloigne. Ce dernier se retourne et fait face. « Non, papa, mais on ne pourra pas la sauver. » Antoine a-t-il demandé cela parce qu'il éprouvait des remords ? Ou simplement pour vérifier qu'il avait bien accompli sa tâche et que l'honneur était sauf? Personne ne l'apprendra, car, quelques minutes plus tard, ce que les gendarmes redoutaient se produit. Une détonation, un flash qui illumine la fenêtre du premier étage, et voilà, c'est fini. Antoine Carredo s'est fait sauter la tête avec sa dernière cartouche. Mais qu'est-ce qui a motivé un tel drame? Une jeune fille rencontre un garçon, ils s'aiment, se marient, et, à cette époque tout au moins, la nouvelle épouse suit son mari. Les choses auraient dû se passer de cette manière. C'est Aurélie, sur son lit de mort, qui révélera le terrible secret de son père. Ce n'était pas Louis Moinet qui était en cause, non. C'était Aurélie elle-même, et surtout, l'attirance contre nature qu'avait développée son père à son égard. Voilà pourquoi Antoine Carredo ne pouvait accepter de laisser sa fille partir avec un autre homme. Il la voulait pour lui. C'était Hervé Michel pour l'émission « L'écrivain mène l'enquête ». Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette histoire et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.